Tommy Chouinard, bonjour.
Bonjour, Louis.
Parlons un peu de l'approche du mi-mandat de François Legault, c'est dans quelques semaines. Oui. Alors, il y avait deux promesses électorales que la CAQ avait faites en matière de santé. Est-ce qu'on va être capable de respecter sa parole?
Bien, d'abord, c'était deux promesses phares de la coalition Avenir Québec. Réduction du temps d'attente aux urgences et création de 2600 places en maison des aînés, un nouveau concept devant remplacer les CHSLD. Mais le sort de ces deux promesses-là sont pour le moins incertaines et l'attitude du gouvernement par rapport à ces deux promesses-là diffère. Je t'explique. D'abord, parlons du temps d'attente aux urgences.
Oui.
La situation empire. On a vu les statistiques au cours des derniers jours. Pour 2019-2020, le temps d'attente par rapport à l'année précédente a augmenté d'une heure pour atteindre 15,2 heures. Puis il faut savoir que quand même, dans les dernières années, il y avait eu une amélioration de la situation. Ça avait diminué un peu. C'était toujours quand même assez élevé. Le meilleur score obtenu, 2017-2018, on était à 13,7 heures, je rappelle. Donc, en ce moment, 15,2 heures. Ce temps d'attente-là, ça représente le moment où la personne, on termine, là, le patient se retrouve, sur civière jusqu'à temps qu'il obtienne son congé de l'hôpital ou qu'il soit, transféré sur un lit, là, dans un autre service d'un hôpital. Maintenant, qu'avait promis, François Legault en campagne électorale, donc, il y a deux ans? Il avait promis de réduire le délai de prise en charge d'un patient. Ça, c'est le temps qui s'écoule entre la fin du triage et le moment où le patient voit un médecin.
Ouais.
Il avait promis une heure et demie. Il a dit ce temps-là, ça va être une heure et demie. À l'heure actuelle, c'est 2h30. C'est 2h28 plus précisément. Donc, il y a une heure encore d'écart. Mais... Et ça bouge pas beaucoup, ce chiffre-là, au cours des dernières années.
Mais as-tu vu à quoi les médecins qui travaillent dans le réseau attribuent justement ce prolongement des délais? Ce qu'ils disent, eux autres, c'est que, en partie, c'est parce que le docteur Barrette n'est plus là. Parce qu'ils disent, quand le docteur Barrette était ministre de la Santé, c'est lui qui avait fait la structure, puis tout ça, puis il nous mettait de la pression, puis nous, tu sais, les médecins avaient de la pression pour améliorer la performance à l'urgence. Or, depuis que le docteur Barrette n'est plus là, il semble qu'on ait moins d'assiduité, moins de suivi qui soit fait. Alors, il y a du relâchement et les temps d'attente allongent.
Et c'est pour ça que je te parle de l'attitude du gouvernement Legault par rapport à ses promesses. Parce que, dis-moi, quand tu as entendu parler un ministre du gouvernement, y compris le ministre de la Santé, Christian Dumais vient d'arriver, mais Daniel Mécan, parler de cette promesse de réduction d'attente, de délai de prise en charge... des patients. Il n'en parle pas beaucoup.
Non.
La clé de voûte du gouvernement pour arriver à atteindre cette promesse-là, c'est convenir d'une nouvelle entente avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Mm-hmm. On s'entend qu'avec la pandémie, les discussions se poursuivent, là, mais ce n'est pas évident parce que le gouvernement veut revoir le mode de rémunération des médecins de famille pour qu'au lieu d'être rémunérés principalement à l'acte, on les rémunère pour le suivi, la prise en charge d'un certain nombre de patients. Donc, changer ce mode de rémunération. Mais le problème, Louis, puis là, on est à la mi-mandat, puis n'importe quel politicien là, qui a été ministre le sait que le temps passe vite là, quand il est temps de livrer des choses. Changer un mode de rémunération, là, ça se fait pas en claquant des doigts.
Mm-hmm.
Parce qu'il va falloir que la Régie de l'assurance maladie du Québec revoie complètement son mode opératoire. Puis moi, ce qu'on me disait, c'est que si d'aventure on arrive à une entente avec les médecins de famille, il n'y a pas de résistance comme telle par rapport au changement de mode de rémunération, mais même si on arrive à une entente là, très, très, très bientôt, là, c'est long pour assurer l'entrée en vigueur de cette mesure-là. Moi, on me disait, ça va être dur de faire entrer ça en vigueur avant l'automne 2022.
Mm-hmm.
Donc là, avant qu'on retrouve que cette mesure-là, qui va faire en sorte que on dit que la moitié des patients qui sont à l'urgence n'ont pas d'affaires là, devraient voir le médecin de famille. Donc, qu'il y ait ce transfert-là, là, puis qu'il y ait une prise en charge meilleure des patients auprès des médecins de famille, ça va être extrêmement là. Donc, clairement, danger de ce côté-là.
Bon, et pour les maisons des aînés, bien là, il y a des annonces qui se succèdent, là, mais le problème, c'est les mettre en chantier après.
Voilà. Attitude du gouvernement Legault par rapport à cet engagement à ces maisons des aînés, on essaie d'appuyer sur l'accélérateur. là, c'est sans dire qu'ils ont fait un choix formel entre les deux, mais clairement, ils ont décidé de mettre leur bille, de tout miser sur les maisons des aînés. Ouais. Mais 2600 en place d'ici la fin du mandat, c'est une grosse commande, Louis, on s'entend là-dessus. Par contre, là, depuis les derniers mois, c'est une trentaine de maisons des aînés qui ont été annoncées par Marguerite Blais, là, que l'on essaie de présenter. Là. Elle a connu beaucoup de difficultés pendant la pandémie parce qu'on sait que ça a touché beaucoup les CHSLD, oui. les résidences pour aînés. Donc, on essaie de lui donner là, un plus beau rôle maintenant avec ces annonces-là. Mais ces annonces-là, si on dit qu'il va y avoir une maison des aînés à tel endroit, mais avant qu'elle voie le jour, ça va prendre un certain temps.
Bien, c'est pour ça qu'on voulait peser sur l'accélérateur avec la loi 61, là.
Exactement, avec le projet de loi 61. Ouais. Mais c'est un peu nébuleux en quoi le projet de loi 61 aurait vraiment permis d'accélérer précisément les maisons des aînés. Parce que, bon, les évaluations environnementales, dans ce cas-là, on peut douter. Peut-être que avec les discussions avec les municipalités, peut-être que ça aurait permis
d'accélérer les choses.
Des choix des terrains, par exemple. C'est ça, par exemple. Bon, on le sait, là, ça représente ces 48 maisons des aînés que le gouvernement veut faire d'ici la fin du mandat. Mais là, ça sera vraiment pas évident de tout livrer ça. Mais, à tout le moins, le gouvernement pourra toujours dire, ben on a lancé le chantier, puis déjà, il y a une porte de sortie. Au fond, ils vont dire, ben en campagne électorale, on vous avait dit 2600 places, mais on avait aussi parlé d'un chantier d'une génération. Hein? Donc
et
là,
je pense que
cette déclaration-là, ça va revenir dans le discours du gouvernement.
Mais il va y avoir, dans 2 ans, là, quand on va être en campagne électorale, parce que dans 2 ans, ce moment-ci, on va être sur le bord de la campagne électorale. Là. Alors, la pandémie va avoir le dos large, je pense, là,
Tout à fait. On va pouvoir
tout expliquer avec la pandémie. Ouais, mais les places dans les CHSLD, pandémie. Ah bon, OK, d'accord. Puis les urgences, pandémie. Tout va être pandémie.
Puis je pense que ça... Oui. Puis dans d'autres secteurs aussi, en éducation, puis tout ça, je pense que cet argument-là va sortir beaucoup.
Exactement. Bon, rapidement, parlons de Justin Trudeau qui comparait aujourd'hui. C'est une première depuis 1932, quand même. Alors, puis il y a plein de questions à poser, mais je ne suis pas sûr qu'on va avoir toutes les réponses.
Mais pas sûr qu'on va avoir toutes les réponses, mais clairement, est-ce que ce programme-là, il va falloir qu'on explique là, comment ça se fait qu'on est arrivé à créer presque un programme sur mesure pour We Charity, parce que là, c'est ça la séquence un peu des événements où le premier ministre Justin Trudeau et le ministre des Finances Bill Morneau, tous deux, en raison de leur lien avec cet organisme-là, sont dans l'eau chaude, ont décidé de créer ce programme-là. On a contacté donc le mouvement Uni qui a envoyé une proposition au gouvernement avant l'annonce du programme. Il va falloir qu'il y ait des réponses qui soient données par rapport à toute cette question-là. Au fond, on revient à est-ce que tout ça, c'était une façon de voler au secours de We Charity qui était en difficulté? Puis toujours, en quoi le gouvernement fédéral, qui gère une panoplie de programmes normalement, mais aussi pendant la pandémie, tous ces programmes-là étaient incapables de gérer lui-même ce programme-là. Parce que, tu sais, au-delà des questions éthiques là, sur les qui sont importantes, là, mais les fautes ont été reconnues. Là. Mm-hmm. Et M. Trudeau et M. Morneau se sont excusés pour ne pas s'être récusés des discussions au Conseil des ministres lors de l'octroi sans appel d'offres du contrat de ce programme.
Mais les liens, il y a toujours la fameuse question des liens entre cet organisme-là et la politique. Et encore une fois, ce matin, à la une du Globe and Mail, un article très intéressant où on dit que We Charity a dépensé 605 000 $ américains pour faire affaire avec des firmes de consultants à Washington pour intervenir auprès des politiciens là-bas. Alors, c'est quoi cette dépendance de cet organisme-là des politiciens? On comprend là que, ça vit de subvention, ces organismes-là, mais pourquoi est-ce qu'on aime autant les politiciens et vice-versa?
Pourquoi on ne s'inscrit pas au Canada au registre des lobbyistes? On se cache derrière une règle qui ne serait pas la même pour les organismes en but lucratif, mais là, clairement, c'est que sous plusieurs aspects, il y a quand même des situations préoccupantes sur We Charity, sur les circonstances entourant l'octroi du contrat sans appel d'offres.
Alors, on aura sans doute l'occasion d'en reparler amplement demain matin.
Ah oui, je te promets.
Merci, Tommy. À demain.
À demain.
Salut.